Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see how we go to fish. Hein?
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct comme tous les soirs, bien sûr, en direct à la radio sur RMC, en direct à la télé sur RMC Sport News dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football ne pense pas encore. Et ils sont là comme tous les dimanches, l'équipe du dimanche, enfin reconstituée. Oui, parce qu'il y en a qui prennent des vacances, quoi, tranquille, décontracté. N'est-ce pas, Pierre Ducron ?
Bonsoir. Des vacances décalées, puisqu'en juillet, quand vous y étiez tous, je travaillais. Bon.
C'est vrai, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai que t'as assuré une partie de l'été, faut le dire.
Quand tu n'as rien à dire.
Daniel Riolo est là, bien sûr. Salut Daniel.
Salut les amis.
Alors, on va parler de l'équipe de France, les gars. On va parler de Maradona longuement. On va parler de l'Italie, de l'Espagne qui ont joué ce soir, plus tout le reste de l'actu foot du jour. Mais on a un événement ce soir en direct, c'est la finale de l'US Open de tennis. Avec Eric Salio, Medvedev, Nadal. Eric, bonsoir.
Bonsoir, l'after, 4 jeux à 3, toujours pour Nadal, mais balle de 4 partout pour Daniil Medvedev qui tactiquement me bluffe parce qu'il fait plein de choses, il veut pas se laisser enfermer dans le système de jeu de l'Espagnol, donc il brouille les cartes et pour l'instant ça lui réussit, même si il prend beaucoup de risques, mais pour l'instant peut-être que ça va faire 4 partout, là il monte au filet, il va se faire prendre, égalité, donc 4-3 et 40 à égalité sur le service du Russe.
Hey Eric, j'apprends que tu parles de moi dans mon dos. Je te prends à la descente de l'avion, je te prends direct.
Tagué,
à la descente de l'avion, je te prends.
Oui, bah c'est ta seule chance.
On va régler ça.
C'est pas faire
oui, avec 7 heures de vol et le décalage horaire. Oui, oui. Bon, okay, non, mais ça te ressemble, effectivement. Ça te ressemble.
C'est vrai. J'ai oublié l'élément décalage horaire. Pardon. Bon, alors je te laisse 7 jours. Enfin 6 jours. Une heure par jour.
C'est beau,
le décalage horaire.
Oui, c'est ça.
Et dans la foulée, tu es mon invité.
Qui choisit la surface?
Bah, un vieux comme toi, ça ne peut jouer que sur Terre, donc on jouera sur Terre.
Ouais, ça c'est tout à mon avantage, parfait.
Voilà.
Les balles aussi, c'est important.
T'inquiète pas. D'accord. Allez. Tu sais très bien qu'aujourd'hui est une triste journée pour moi.
Une caméra et tout, et puis on mettra ça sur Twitter. Et
s'il fait beau, je viens arbitrer. S'il fait beau, seulement.
Ah non, aujourd'hui c'était un peu terrible.
25 secondes pour servir. Hein,
tous les joueurs du tennis du dimanche
franchement, tu es déçu par le verdict du classement français, Daniel? Comment ton classement?
Je m'y attendais, malheureusement.
On m'a dit que t'étais un peu touché.
Je m'y attendais, j'ai eu une saison noire, beaucoup de blessures, d'accord. C'était évident.
Ah, beaucoup de blessures. Oui.
J'ai accumulé des matchs idiots pour remonter alors que j'en ai pas.
Est-ce que c'est lié à ton hygiène de vie, Daniel?
Bah, probablement. Probablement. Aujourd'hui, il faut savoir que pour tous les joueurs amateurs, c'était très important. Les classements sont tombés.
Une fois par an?
Ouais, tout le monde était très fébrile et attendait ce matin. Bon, enfin, en même temps, logiquement, tu dois t'attendre à ce qui t'arrive.
Et donc, c'est quoi après? C'est ton classement pour l'année après ou?
Ouais. Enfin, maintenant, il est évolutif. Tous les mois, il peut varier. Enfin, bon. Mais d'accord. Celui annuel qui mais tombe, et tout, il est important.
Dans l'after foot, mais votre histoire de 15-4, 3-5, 30 machin, on n'y comprend que dalle.
Ah ouais, moi je suis complètement largué.
C'est juste le chiffre qui a l'air compliqué. Après, on dirait 1, 2, t'es niveau 1, t'es niveau 2, t'es niveau 3.
Bah, ça nous arrangerait, ouais.
Oui, mais bon, voilà.
Tu fais des niveaux de 1.
Nous évoluons à un petit niveau, Gilbert, tu le sais, bien sûr. Mais bon,
le niveau le plus faible, c'est quoi?
Bah, c'est tout le groupe des quatrièmes séries, quoi. De 35 jusqu'à 31. Après, les troisièmes séries, c'est là où, en gros, sont les joueurs un peu améliorés du dimanche, comme Eric et moi.
Donc là, c'est 15. 15-1, 15-2, 15-3, 15-4.
15-1, 15-4, 15-3.
15-1, ça commence à très bien jouer, ouais.
Après, à 15, comme par exemple Jérôme Thomas notre René, là, ça commence à jouer.
Qui est le meilleur? Qui est le meilleur d'entre vous tous?
Oui.
Et en dessous, 15?
Stephen Brun, 15-1 depuis ce matin.
15 ans, il est. Ah, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai fait un set partout avec lui l'an passé en amical. Donc,
bon, après cette petite parenthèse.
4 partout, Gilbert. 4 partout.
De tennis.
Ah, ça me donne envie de m'y mettre, moi.
Ouais, pourquoi pas.
Non, pas les footeux, c'est les pires.
Et Philippe Saint-André qui
est là. Il a des cuisses, Eric.
M'a dit qu'il jouait
c'est
bien,
les pires à jouer. Ils n'ont aucune technique, mais alors ils ont des jambes, c'est horrible.
Ah, ouais.
Horrible. C'est vrai que Philippe Saint-André vous met la misère quand vous voulez.
Non, il est 15-4. Il m'a dit que jeune, il a joué très bien, mais que là, il est niveau entre 15-4.
En général, quand tu quand tu vois les mecs comme ça qui sont forts à tous les sports, lui au rugby, il était quand même.
Ah, il était pas mal, ouais.
Un des meilleurs joueurs du monde à l'époque.
Ouais. Ah, oui, bien sûr.
S'il devait, il devait envoyer. Bon, Eric, à tout à l'heure, hein.
Oui, dans le bon détail.
Ce qui nous intéresse, c'est Nadal Medvedev quand même,
hein.
C'est
pas
du dimanche contre ton voisin.
4 partout, là.
4 partout, ouais.
Très bien. À tout à l'heure. Messieurs, dames, attention, je vous demande un peu de solennité, de vous lever pour écouter ça.
Mais là, on a.
Donc là, il est évident que c'est l'île d'Andorre, vous savez.
Oui, mais là, on a 24 heures d'avance.
Ah, mais donc tu demandes à tout le monde de se lever pour respecter, et vous restez assis.
C'est l'hymne de mardi, ça.
C'est l'hymne de mardi, mais.
On l'a peu passé, importe l'hymne, on
l'a
respecte.
Passé parce que nous, dans l'after, on savait quand même que c'est l'hymne d'Andorre. On le connaît, l'hymne d'Andorre.
Ouais.
Bah, il y en a qu'un qui le savait. Il y en a qu'un qui le savait pas, ça.
Franchement, on savait pas.
Bon, non, on va revenir sur cette histoire parce que ça a été le petit buzz du jour, là. Alors, grotesque ou pas, bon, l'after donnera son point de vue avant de reparler du match, évidemment, et de ce qui s'est passé sur le terrain. Mais, avant cela, j'aimerais parler d'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'événement dans le foot mondial, et je pèse mes mots, c'était pas Grèce-Liechtenstein un partout. Résultat surprise tout de même. C'était pas Norvège-Suède, le derby scandinave un partout. C'était le retour de Diego. Et là, il s'est passé un truc. On va écouter. Je vous mets le contexte. Hein. Donc Diego Maradona. Franchement, ça fait mal au cœur quand on le voit. Limite grabataire. Il n'arrive plus à marcher. Hein. C'est terrible. Il revient du Mexique où il entraîne une équipe de D2 qui a pas réussi à monter. Et là, il reprend le dernier du championnat argentin. Championnat argentin, c'est un championnat où n'importe quoi, il y a 30 équipes, c'est un bordel sans nom.
Ton équipe, c'est quoi, le Gymnase de la Plata?
Voilà, Gymnasia de la Plata. La Plata, c'est une ville.
Tu as le gymnase?
Au sud de Buenos Aires, au bord de la mer. Le grand club de la Plata, c'est Estudiantes, qui était le club de Vérone, rappelez-vous.
Quand tu dis le gymnase, c'est comme en France qu'on dit Stade de Reims ou Stade de Rennes.
Ouais, moi, le gymnase, quand j'entends gymnase.
Oui, gymnase,
ça va pas avec le foot, ça va pas.
Mais en grec,
ça fait équipe de foot en salle.
Mais
ça fait équipe de foot en salle.
Mais c'est là, pour mettre ça dans le contexte, c'est un peu comme si Diego Maradona reprenait Châteauroux. Mmh. Ou Niort, pour reprendre l'image de nos amis niortais.
Qui ne sont pas d'année de Ligue 1.
Non mais, parce que comme tu t'élargirais la Ligue 1, là, parce qu'il y a 30 équipes.
D'accord, ok.
Et là, il arrive, le club, en quelques jours, ils ont pris 1000 socios de plus. Il arrive au stade cet après-midi, stade plein, 2 heures avant, pour l'entraînement, le premier entraînement de Diego. Et là, on va vous faire écouter en version régionale, en espagnol, écoutez bien, parce que les télés espagnoles, étaient en direct, avec drone, mec en direct qui commentait l'arrivée de Diego sur le terrain, mais il commente tout, il commente comment il est habillé, ce qu'il fait, à qui il dit bonjour. Enfin, c'est absolument fantastique. Donc, on avait ce débat la semaine dernière sur quel est le plus grand pays de football. C'était en Argentine aujourd'hui, écoutez.
Maradona, en estos momentos, entra al estadio del Bosque. Se abraza fervientemente con el presidente de la institución, con Gabriel Pellegrino,
y bajo
el Diego, que justamente baja de los cuatro costados del Juan Carmelo Cerillo.
Diego
Armando Maradona con pantalón azul Francia, con buzo azul, con una franja horizontal blanca,
una casquette blanche
del mismo color, pisa por primera vez.
Il commence ça comme un match, le gars, c'est génial.
Et une voiturette pour l'emmener quand même.
Donc là, il y a quand même une voiturette de golf pour l'emmener du poteau de corner au rond central quand même. Il peut pas marcher, le gars. C'est terrible.
Ouais.
Il y a des larmes, dit le commentateur.
Et il est sponsorisé Coq Sportif.
C'est le club peut-être.
Hein, c'était sa marque de l'époque.
Et c'était la marque quand ils sont champions du monde en 86.
Alors, attends, on écoute la suite parce que le gars continue de commenter. Alors voilà, toute l'équipe et son staff technique l'attend au complet dans le rond central. Voilà, toute l'équipe pro est là.
Le président doit être content de son coup.
Voilà, tout ça dans un stade plein comme pour un match, hein. Pour l'entraînement, le premier entraînement. Voilà, donc je voulais vous faire écouter quand même ce truc. Vous pouvez retrouver tout le son et l'image sur nos comptes Twitter, hein, de l'after, le mien et tout, mais c'est extraordinaire ce truc quand même.
Bah, c'est Diego. Lui, il n'y a que lui dans le monde qui suscite ce genre de choses. C'est aussi pour ça que quand il y a le débat, c'est qui le plus grand joueur du monde et tout, et que je dis évidemment que c'est lui, évidemment qu'il y en a d'autres, évidemment qu'il y a Pelé, évidemment qu'il y a beaucoup d'autres joueurs. Mais lui, il dépasse le cadre du foot, et pour être un des plus grands champions de l'histoire, c'est comme Jordan au basket, comme Mohamed Ali en boxe. Il faut que tu évoques pour les gens autre chose que juste
il faut une histoire,
le jeu, quoi. Et Maradona, c'est énormément de choses. C'est
donc
tout
le
pour
type,
l'Argentine.
Il met les pieds en Argentine, quoi qu'il fasse, les mecs vont être là commenter ce qu'il fait.
Ah oui, oui.
Comment il est habillé, avec qui il parle.
Si tu peux aller plus loin. S'il y a une victoire, ce sera grâce à lui. S'il y a une défaite, ce sera à cause des joueurs.
Mais le pire, je vais plus loin.
C'est sûr.
Non, mais là, moi, je pense que t'as tort. S'il y a 4-5 défaites, là, tous les types qui étaient dans les tribunes, ça peut se retourner très vite.
Non, pas voulu.
Moi, je pense que justement,
personne lui en veut jamais. En plus, maintenant, il est vieux, il est fatigué.
Il est très fatigué.
Il est revenu de la mort, je sais pas combien de fois. Il a tellement tout vu dans sa vie. Lui, plus personne lui en veut maintenant. De rien du tout.
Cela dit, il fait quand même. Il a pas de résultat, le pauvre, comme coach. C'est quand même terrible.
Non, mais en même temps, il ne s'est pas complètement consacré. Il le fait. Il doit parler aux mecs. Il doit leur dire. Il doit beaucoup axer sur la motivation. Les mecs doivent être devant lui.
C'est Coronès.
Est-ce qu'on sait si à chaque fois il a quelqu'un avec lui, toujours la même personne qui vient
Avec l'ancien attaquant de la Fiorentina, Batistuta, et finalement, ça n'a pas pu se faire.
Non, mais quand il a fait la sélection, il était sérieux. Il avait un encadrement avec lui, des mecs très, très sérieux. Et avec la sélection, bon. Effectivement, en 2010, on peut dire que c'est un échec. Bon, il perd en quart contre l'Allemagne, quoi. Certes, 4-1, mais bon, l'Allemagne était une équipe très remarquable à ce moment-là. On peut pas dire l'Argentine était pourrie ou quoi. Ok, ça jouait, quoi. Et là, il avait vraiment fait le truc de façon sérieuse. Hein. Il n'était pas. Il y avait une préparation technique, tactique. Il était très, très, très entouré.
Ou alors c'est la fédération qui avait mis en place le truc
après,
sérieux
le
avec
reste,
lui.
Ouais. Après le reste. Après, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, quoi, au Mexique, machin. On peut pas dire qu'il a vraiment consacré sa vie à ça non plus. Hein.
Tiens, et puis pour conclure, du coup, après, il a pris le micro, le show a continué, et il a un peu chanté. Tiens, on écoute. Voilà, un petit chant pour les supporters.
Et lui, comment veux-tu que lui-même soit un type normal ? Quand t'es adulé à ce point, quand on
parle. Tu vis pas dans le même monde après.
Voilà, il vit pas dans le même monde, quoi.
C'est une vie extraordinaire.
Je pense qu'il est. Je sais même pas quel genre de personne il estime être un peu son égal. Il est particulier. Il est détraqué depuis sa jeunesse, quoi. Depuis combien, les années 80 maintenant, donc depuis 30 ans. C'est un gars qui vit sur une autre planète.
Ouais, c'est hors du commun.
Ça ne te détériore pas ou que ça ne te fasse pas être quelqu'un d'autre.
Il y a pas eu de film sur lui.
Ah, il humilie les films, que ça, des films sur lui.
Il y en a même reçu,
c'est le joueur qui a le plus eu de documentaires.
Non, pas des documentaires, un film, je te parle.
Là,
il y en a eu un magnifique qui est plus à l'affiche, mais qui va sans doute exister en documentaire.
Que tu vas pouvoir voir bientôt sur les
plateformes.
Un documentaire.
Une partie de sa vie, notamment centrée sur Naples.
Mais toi, tu parles d'une fiction.
Une fiction qui se baserait, voilà, et qui se baserait sur
son rôle.
Oui.
Ah non, exactement comme ça, non, il n'y a pas eu. Non.
Comme il y en a eu sur Ali ou sur peut-être
oui,
sur d'autres grands sportifs, quoi.
Enfin,
parce que
temps,
si t'en as un avec qui tu pourrais avoir ça, c'est lui.
Franchement, il y a au moins deux ou trois documentaires qui sont excellemment.
Oui, des documentaires, j'en ai déjà vu.
Ali, le film est réussi. En plus, c'est un grand réalisateur, un très super acteur et tout, c'est vrai. Mais sur Ali, j'allais dire les docs sont mieux. Non, parce que le film est vraiment bien. Le film est vraiment très très bien.
Dans un film, tu peux peut-être pas tout mettre.
Mais les docs, non, mais lui, tu pourrais, sans problème faire un film. Après, la boxe a toujours été filmée d'une autre façon, ça passe mieux au cinéma. Mais les docs sur Ali sont tout aussi bien que le film.
Qui pour incarner Diego ? Je veux dire, Ali, t'avais Will Smith, il a réussi à
trouver. Tu vas pouvoir trouver
un mec à qui tu mets des frisouilles petits.
Manu Payet.
Je sais pas si ce serait une production française. Non, mais tu pourrais, bien sûr que tu pourrais, mais bon, les docs sont tellement bons.
Des docs, bien sûr, j'en ai déjà vu.
Faites vos propositions. Qui pour incarner Diego au cinéma ? Voilà, bon courage, les gars.
Allez.
Bon. Voilà, en tout cas, c'était l'aventure du jour de Diego Maradona. Et quand on entend les commentateurs argentins, évidemment, commenter ça comme si c'était un but, juste le fait qu'il arrive sur le terrain, habillé en bleu avec une casquette blanche, c'est quand même un truc de dingue. Bon, voilà. Alors, l'équipe de France, on y va. Alors, évacuons cette histoire d'hymne. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron s'est aujourd'hui officiellement excusé. Il a appelé le Premier ministre albanais, quand même.
Non, mais.
C'est bien,
Tu évacues. Ok, il n'y a pas de problème, mais.
Ah, mais sûr, on va pas faire un quart d'heure là-dessus.
Bien sûr.
On peut faire deux minutes.
Un président de la République est obligé, à cause d'une boulette de l'organisation, et ça, c'est, franchement, ça l'affiche mal et ça fout la honte. Et évidemment, comme d'habitude, Le Graët va passer entre les gouttes parce que lui, ce qu'il veut, c'est accuser tout le temps les autres, mais jamais prendre pour lui.
Ah, c'est enfin,
bah, c'est le travail de la Fédé d'organiser.
Oui, mais c'est pas lui qui a la palette.
C'est le protocole de la Fédé.
Mais est-ce que on l'a entendu lui?
Il s'est excusé aussi.
Dès
hier soir.
C'est quand même. Tu vois, ça oblige le président à intervenir. Ouais. Ça la fout mal, quoi.
Oui, ça la fout mal.
L'organisation, tu fais pas un truc comme ça. Tu vois, en plus, ça.
C'est une erreur très, très bête, mais c'est
vraiment l'impression que, c'est une belle bande de baltringues, parce que t'as d'abord celui qui fait ça, l'autre qui dit, bon, bah, pardon, en fait, c'est bon, maintenant on va mettre l'hymne de l'Arménie, toi. Oh là 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 là, t'en avais pas un pour rattraper l'autre, quoi.
Alors ça, c'est Max, le speaker, qui est d'ailleurs un auditeur fidèle de la
France. C'est Max, je savais même pas que c'était Max.
C'est Max. Bon, on essaie de l'appeler aujourd'hui, Max, il est, en général, il fait toujours des sans faute. Faut dire.
Bah,
c'est malheureux pour Max.
Ce sont des erreurs, mais ça peut arriver. Ça doit pas arriver, mais ça peut.
Le speaker de à peu près quoi, 100 matchs de l'équipe de France, et puis là, pour une boulette.
Il nous appelle, qui nous raconte sa boulette.
Bah oui, on voulait le faire, mais il nous a dit
c'est l'hymne de l'Arménie et pas l'Albanie.
Non, il s'est excusé auprès des supporters arméniens.
Bah, je pense qu'ils étaient un peu tous.
Ils étaient dans la panique. Bien sûr.
Bah, enfin bon, allez, on va dire que ça arrive.
Ouais, ça devrait pas arriver, mais ça arrive et voilà.
Bon, en tout cas, nous, on a bien reconnu l'hymne d'Andorre, qu'on connaît bien.
Bien sûr, tout de suite.
C'était première note. Au début, évidemment. Alors. Revenons quand même sur l'équipe de France 24 ans plus tard, d'autant que vous n'étiez pas hier soir dans l'after. Ludovic Obraniak était là, Jonathan Macardy, je les ai écoutés. J'étais au stade, moi, je suis rentré du stade, je les ai écoutés faire leur petite analyse et tout. 24 ans plus tard, moi, il y a quand même un truc qui m'a assez étonné, c'est qu'en fait, tout le monde a été assez dithyrambique sur l'équipe de France hier soir. Alors que moi, au stade, j'ai pas été hyper impressionné, quoi. Enfin, je sais pas.
C'est peut-être la valeur de l'adversaire aussi qui t'a fait.
Le champagne était chaud.
Ou alors t'es resté complètement en loge, t'as pas vu le match.
Ah d'accord. Donc le rosé n'était pas assez frais.
Si, il était très frais. Non mais c'était pas. Enfin ça va quoi. C'était un match correct.
C'est le genre de match qu'il faut rendre correct en faisant tout parfaitement comme ils ont fait hier. Mais qui est toujours où tu tempères toujours un peu tes impressions parce qu'en face.
Après c'est sympa parce que tu vois des joueurs qui jouent pas beaucoup bon avec l'équipe de France. Donc
oui,
c'est un peu de nouveauté.
Tu peux toujours et t'as raison tempérer parce que l'adversaire. Sauf que contre des adversaires faibles. Combien de matchs de l'équipe de France on a vu pourri où tu t'ennuies?
Je suis d'accord.
Alors là, tu vois un match de l'équipe de France contre un adversaire, certes, pas bon. À l'Euro, t'avais ramé pour les battre.
Bah oui.
Alors,
ils étaient meilleurs.
Ulrich, ils sont moins bons.
Ah, ramé, non, pardon, ok.
Alors, ouais.
Je croyais que t'avais Ulrich ramé pour les battre.
Je pense que la priorité pour eux, c'est le match de mardi. Et c'était pas le match de l'équipe de France où ils se sont dit, même si on est taquet, on va perdre. Mais il y a tellement eu de matchs pourris des Bleus contre des faibles que là, voir que ça joue un peu au ballon, qu'il y a des buts, que ça sourit, ça donne une belle soirée.
J'ai été jeudi soir voir les espoirs contre l'Albanie aussi à Amiens. Donc tu peux dire qu'il y a un peu le même déséquilibre au niveau du rapport des forces entre les espoirs français et les espoirs albanais. Alors, ils ont gagné aussi facilement, mais avec des buts en fin de match. Et honnêtement, c'était ce genre de match où ils avaient le ballon, mais très peu de créativité offensive. Jeffrey Renadelaïde qui a beaucoup tenté d'aller vers l'avant, etc. Mais le reste, assez stérile, assez pauvre. Et t'as raison, ça aurait été un match où normalement ils auraient dû s'imposer en étant un peu plus comme les grands, comme les A. Beaucoup plus d'allant, beaucoup plus de différence sur le plan offensif. Moi j'ai bien aimé les Bleus sur le plan offensif. Il y avait pas mal de mouvements, pas mal de choses faites. Bon, même déjà, si en face c'était pas fort, il fallait le faire.
Déjà avec 4 joueurs offensifs.
Ouais.
Dans une animation 4-2-3-1. Donc 4 joueurs offensifs.
Oui, t'as matière à faire.
Ça arrive pas non plus si souvent. Enfin, contre les faibles, il peut le faire. Mais en plus, en fonction des joueurs qu'il a, de ceux qu'il peut mettre sur le banc et tout, deux milieux comme ça devant la défense, c'est juste comme ça.
J'allais te dire, t'avais Blaise Matuidi devant la défense et pas en milieu gauche, un peu plus haut.
Voilà, donc bon, c'est toujours mieux quand t'as des joueurs offensifs, avec des latéraux qui montent. On a bien vu que Hernandez aimait beaucoup
monter. Hernandez qui était sans doute le meilleur hier. Hein.
Et qu'en plus, il est plutôt habile quand il monte. Quoi.
D'ailleurs,
donc,
nouvelle rassurante le concernant aujourd'hui, tout va bien.
C'est quand même un arrière-gauche, c'est quand même un très bon arrière-gauche.
Ah,
parce que lui qui dit tout le temps, qui a un central, qui en gros est en train de se dire, en équipe...
Il a un peu changé son discours, t'as remarqué?
Oui, en équipe nationale, je jouerai arrière-gauche. C'est entendu pour lui, il sera arrière-gauche.
Je connais le poste par cœur.
Voilà, je serai l'arrière-gauche.
Il est pas bête. Peut-être qu'il se dit, il est pragmatique.
C'est là qu'il y a de la place.
Ouais. Enfin, il a même pas besoin d'être filou, puisque de toute façon, sa place, il l'a, il est bon.
Bah, bien sûr.
Et puis, Thuram, en club, était tout le temps central. Et en équipe de France, il a fait toute sa carrière. À la fin, il est repassé au centre. Mais au début, en tout cas, il était, pendant de longues années, il a joué arrière-droit. Là, Lucas Hernandez se dirige vers je serai tout le temps l'arrière gauche de l'équipe de France. Bah pourquoi pas, parce qu'il est bon. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Et comme tu dis, il l'a dit lui-même, je connais les rouages du poste, ça m'embête pas. Il le fait avec envie, plaisir, tant mieux pour les Bleus. Hein.
Bien sûr.
Pierre, c'est un très bon arrière gauche. Hein. Au 32-16, salut Pierre.
Salut Gilbert, salut Pierrot et salut Daniel.
Salut Pierre.
Alors, sur l'ensemble du match, là, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Ah bah disons que au moment où Griezmann y rate le pénalty, j'ai pas peur, quoi. C'est rare dans un match de foot quand ton équipe elle rate un pénalty et que t'as pas peur, c'est quand même que le match, c'est un peu un match de gala.
Il a tiré à Trezeguet en 2006 sur pénalty.
Trezeguet, il y a un plat du pied qui va dans la lue, enfin la barre.
C'est moins appuyé.
Ah, pas pareil, là c'était
en blanc, quand même.
Ah là c'était au milieu. Enfin,
il a frappé, ouais, puis il a frappé vraiment
coup de pied, Griezmann, pas pareil quand même.
Ouais, coup de pied, bon, et sur la barre, c'est pas non plus honteux de la rater comme ça. Moi, je pense que sur ce match-là, c'est surtout les remplaçants habituels qui perdent des points. Je pense à des joueurs comme Thauvin, comme Ndombele, comme Ben Yedder. Quand ils ont eu leur chance, ils n'ont pas été flamboyants. Et hier, des joueurs comme Lemar, comme Coman, ils ont été ils ont été super bons. Donc je pense que c'est plutôt ça qui fait la différence. Il n'y a pas beaucoup de place en équipe de France, et je pense qu'ils ont gagné leur place de remplaçant pour le prochain Euro, quoi. Parce que les titulaires, on les connaît, on sait que
t'emballes pas, tu sais que ça change très très vite les compositions de groupe, ce qui peut se passer dans une saison. Tu parlais de Thauvin, Thauvin, c'est normal qu'il soit pas en bleu, le gars il joue pas depuis super longtemps. Ouais. Donc déjà il faut qu'il rejoue, le contexte va pas lui être méga favorable à l'OM cette année.
Non, et le problème, quand tu veux comparer,
il faut voir la saison que va faire Fekir, même s'il est bon quand il rentre, indéniablement.
Mais il sera toujours ça.
Non, mais il y en a un
franchement, là,
il y en a un qui a peut-être gagné plus que dire voilà, qui a gagné peut-être beaucoup hier soir, c'est Coman.
Ouais, mais Coman, il est dans le groupe depuis longtemps. En fait, quand il est pas dans le groupe, c'est parce qu'il est blessé. Là maintenant, non. De toute façon, il a toujours été en le groupe ou en marge du groupe. Et là, au Bayern, il va être titulaire. Normalement, il va être.
Si il se blesse pas, il va être titulaire.
Sans blessure. Ouais, donc lui, Coman, c'est pas une surprise de le voir là, en fait.
Oui, Pierre.
Moi, je sais très bien que Coman, je vous l'annonce avant, en mars ou en avril, il va se blesser. Et du coup, c'est Dembélé titulaire.
Ah, mais si toi, tu le sais, alors dis-le-nous, parce qu'il y a peut-être des paris à poser là-dessus, tu vois. Moi, je peux pas savoir.
Il a pas tort, Pierre. C'est très, très récurrent.
Malheureusement pour lui.
Moi, je sais pas si vous arrivez à savoir les blessures à l'avance.
Après, là, si je dois mettre un bémol, Pierre, à tes comparaisons entre les premiers remplaçants, on va dire, c'est que tu peux rarement comparer les matchs, parce qu'il y a des contextes tellement différents. Le dernier match était en Andorre. Comment comparer ce match-là avec un autre, vu le contexte tellement particulier?
Ah oui, sur le synthétique.
Ouais, voilà, c'est
de la porte de la Chapelle.
C'est très compliqué.
C'est même meilleur sur la porte de la Chapelle.
Je n'ai aucun souvenir du match à Andorre.
Ah si, pas là sur là, je crois.
Il y a Ben Yedder qui marque.
Ouais. Je crois que tu t'étais fait porter pas
bizarrement. C'est sur un synthé, t'as l'impression que c'est un match région parisienne sur un synthé,
j'aurais raté
quasiment.
Qu'est-ce que j'ai pu faire?
En mode Coupe de France.
Donc je bossais pas.
C'était quand exactement ce match?
C'est même pas.
Ah, tu étais peut-être en vacances, non? Déjà peut-être, non?
Début juin.
Ah, début juin, ouais, je devais pas bosser.
Il y avait eu le match en Turquie et où la France avait perdu et en dehors ensuite.
Ouais. Il y avait peut-être une étape du RPT alors à ce moment-là. Et...
Ah oui, possible. T'étais parti pour les tournois. Non, vraiment. Non, mais vraiment, t'étais parti pour un tournoi. T'étais où déjà? Probablement. En Espagne, non? T'as pas été en Espagne?
Je sais pas.
En tout cas, moi, j'ai
non, au Maroc. Non,
moi, j'avais fait toute la soirée sur RMC.
Je sais plus.
C'était très très long.
On l'avait fait ensemble, je crois.
Ah ouais, c'était très très long.
Ouais, c'était très très long.
En fait, tu pouvais rien dire de ce match.
Mais
c'était terrible.
Mais non. Et c'est pour ça que pour comparer, c'est parfois compliqué, quoi.
Pierre, t'as parlé de Coman. Tu voulais parler de Lucas Hernandez aussi.
Ouais, Lucas Hernandez, il a été fantastique aussi hier. Mais ce qui m'inquiète pour lui cette saison, c'est qu'au Bayern de Munich, c'est Alaba l'arrière gauche. Je pense qu'il va jouer arrière central. Et je trouve que c'est jamais bon qu'un joueur ne joue pas son poste toute la
saison. Daniel prenait l'exemple de Thuram tout à l'heure, ça fonctionnait.
C'est arrivé souvent à plein de joueurs, Thuram, ça reste, c'est pas trop un souci.
Ça reste marginal quand même comme situation. Il est tellement fort que j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Mais c'est aussi le cas pour Pavard. Hein. Pavard est joueur arrière droit, il va jouer dans l'axe aussi au Bayern. Il est censé former la paire avec Hernandez.
Pavard maintenant, enfin, quoi qu'il fasse en équipe de France.
Enfin, hier soir, il s'est fait démonter. Hein. J'ai écouté l'after hier soir.
Non, mais honnêtement.
Ils ont été un peu durs avec lui.
Mais pourtant, il fait pas un mauvais match hier. Moi, je suis désolé.
C'est pas comparable.
Il fait pas un match exceptionnel. Il fait pas un mauvais match. Il a de la qualité dans ses centres. Hier, il a de la qualité dans ses centres.
Oui, mais Hernandez, c'est un niveau au-dessus de Pavard.
Ah, ben oui, oui, non, mais tout à fait. Ce qui veut pas dire que Pavard est mauvais, forcément, quoi.
Non, non.
Non, mais c'est un joueur moyen, Pavard. C'est pas pareil.
Ouais, c'est vrai. C'est un joueur.
C'est toujours le même problème. Alors, on met qui?
C'est pas un mauvais joueur, ça.
Non, mais il y a pénurie des arrière-droits.
C'est peut-être un joueur moyen sur lequel tu peux t'appuyer quand même.
Cette année, Lyon fait une belle saison.
Dubois
va en huitième de Ligue des Champions. Pourquoi pas, s'ils veulent rêver mieux. Ça peut être aussi une saison où Léo Dubois s'affirme.
Ouais, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Il est pas moins bon. Bah oui,
c'est un poste où tu, si t'es latéral droit, que t'as le vent en poupe, tu peux peut-être espérer, bouger le mec. Mais moi, je pense qu'il offre quand même certaines garanties à Didier Deschamps. Et il passe rarement quand même complètement au travers. C'est un joueur moyen, mais qui est là, sur lequel tu peux compter.
Sa garantie, c'est la confiance. Quoi.
Non, il passe jamais au travers. Tu peux pas dire. Il est souvent passé
rarement,
au travers.
Rarement. J'ai pas dit jamais rarement.
Les gars, une pause.
Oh non, pas souvent quand même.
Il est plus souvent passé au travers.
Balle de 7 pour Nadal à l'US Open.
2 balles de 7.
Ouais, 6-5 Nadal, 15-40 sur la mise en jeu de Medvedev. On sentait venir non pas la défaillance de Medvedev, mais il a de moins en moins de solutions parce que c'est trop dur physiquement de soutenir la cadence de Nadal, et donc l'échange est engagé. Medvedev avec un petit slice de revers qui essaie encore de brouiller les cartes. Il tente beaucoup de choses nouvelles, beaucoup d'amortis. Pour l'instant, ça tient, mais c'est en train de se fissurer, et peut-être que ce point va sceller peut-être l'issue de cette finale de l'US Open, car à 1-7-0, je pense que Nadal est une autoroute derrière, mais là c'est un échange, il se bat comme un fou Medvedev, c'est un échange terrible pour les nerfs et pour les jambes, et c'est Nadal qui craque. Ah, ça c'est incroyable, c'est une belle information. 6-5 donc Nadal, et 30-40 encore.
Il a
une chance,
encore une balle de 7 hein.
il en a encore une mais
c'est sûr étonnant. Que s'il gagne le 7 là et tout, logiquement on se dit derrière Nadal il va le tabasser quoi.
C'est plié, je suis d'accord avec toi. On va voir comment il va réagir Nadal, parce que c'est inhabituel
Nadal,
cette faute.
Il y a le premier set comme ça derrière, tu te dis il va lui mettre une paire de gifles.
Oui, mais là son revers slicé dans le filet, bon, ça lui ressemble pas. Mais bon, on va voir si Medvedev a encore un petit tour de passe-passe. Il monte au filet, attention le passing, volé de Medvedev, un deuxième passing Nadal, non c'est un lob, volé, et voilà Medvedev qui craque et Nadal qui explose de joie avec mesure quand même. Il sait qu'il a fait une grande partie du chemin vers le sacre ici à Flushing. 7-5 Nadal après 1h02.
Il est ressorti, c'est Marcel Nadal.
Ouais.
Ah, il est un peu plus beau que ceux de l'époque, celui-là.
Ce
violet et noir.
Ouais,
là,
lui, a le teint allé.
Surtout, on voit que là, qu'il a son biceps gauche deux fois plus développé que le biceps droit.
Ça a toujours été ça.
Ça, c'est le tennis.
Ouais.
Ça, c'est comme Daniel. Daniel, tu verrais son biceps.
Fais tomber la veste, Daniel, pour voir. Toi, t'es quoi, droitier?
Ouais, je suis droitier.
Et c'est deux fois plus que le gauche.
Forcément.
C'est n'importe quoi.
Pourtant, il a un magnifique revers à deux mains.
À tout à l'heure, Eric. Donc, 1-7-0 pour Nadal. Pierre, donc tu as parlé d'Hernandez, de Coman. T'as fait le tour ou tu veux rajouter un truc?
Ouais, puis après Varane aussi, quand même. Les deux premiers buts, ils viennent quand même de Varane. Hein, deux décalages.
Plutôt la défense.
Varane dans le jeu court, jeu long en orientation, là.
Ah, il était costaud.
C'est beau. Hein.
Ouais, puis,
alors, certes, sur le deuxième but, il y a le relais de Griezmann. Mais son orientation pied gauche, là, c'est propre.
Hein. Ouais, il a fait un match quasi parfait, hein, je crois.
J'aime bien les gestes techniques comme ça des défenseurs.
Est-ce qu'on a... alors, Pavard est toujours contesté, mais là, Umtiti est blessé, il a quitté le groupe.
Umtiti, il a perdu sa place au Barça.
Son genou encore.
Perd sa place en équipe de France.
Non, alors là, il y a un problème au pied.
Blessure récurrente.
Hématome au pied.
Il n'est pas dans la meilleure période, Umtiti.
L'anglais Varane, ça peut durer?
Ah, l'anglais, c'est
pas mal,
ça peut être une très très belle charnière.
Ah bah ouais,
charnière. Ouais. Ouais.
Après, l'équipe de France, c'est toujours pareil. C'est, enfin, les équipes nationales, tu bénéficies des circonstances. Là, Laporte est blessé, Umtiti est blessé.
Ouais, mais quand t'en bénéficies et que t'es costaud comme ça, comme l'anglais hier aussi.
C'est une charnière qui est technique, et en même temps, elle est solide.
L'anglais,
c'est.
Qualité de contrôle.
Non, l'anglais, il est fort.
Qualité technique, de toute manière.
Ouais,
c'est de toute façon, celui qui sera titulaire à Barcelone, il jouera en équipe de France hein, maintenant. C'est facile.
Après, c'est un peu, tu vois, l'anglais. Ouais, l'anglais, il est titulaire au Barça. Il a mis Umtiti sur le banc. Ce serait.
Ouais, ça ressemble à un passage.
Ce serait très bizarre que Umtiti soit titulaire en équipe de France alors que l'autre.
Et en même temps, Deschamps parfois.
C'est vrai, mais bon, là.
Bon, il s'appuie sur des hommes
parce qu'après, il le revoit pas. Comment il fait pour le revoir si Umtiti n'est pas titulaire au Barça, il ne le voit plus jouer?
Bah non, mais c'est
compliqué
mort.
Après.
Ouais, mais
tu vas pas regagner sa place.
Après, Deschamps l'a déjà fait. Hein.
Ouais, voilà, je serais pas surpris qu'il le rappelle.
Dans le même club, au même poste, dans le même club, c'est un peu bizarre quand même.
Bon, sinon, il y a toujours Kurt Zouma qui est sur le banc. Hein. Bon, je vous le glisse.
À moins que Piqué se blesse.
Kurzuma, là, c'est là la revanche. Là.
Ben non, mais c'est la solution. Si jamais là, ouais, le défenseur sais, central qui
oui,
était sur le banc.
Oui, quand t'as pas la porte.
Bah voilà.
Bon, ils vont revenir.
Je sais pas.
Sans moins, ouais, Zuma, moins convaincant bon. Quand même, Zuma.
Ah bah, c'est bah, on l'a manqué, puis là, en équipe de France, on l'a pas vu, quoi. Donc.
Bah, c'est là, pour le coup, c'est vraiment pas le genre de défenseur qui me plaît. Quoi.
Pierre, merci.
MBO, sinon.
Merci Pierre.
Ah. Allez, à plus les gars.
Ciao Pierre.
Il a glissé un petit mapou pour avant de juste partir, Pierre.
Ah, un petit mapou.
J'ai pas entendu passer direct.
Oui, un petit mapou, toujours à Lyon, hein, mapou.
Et il était mis sur la liste de la Ligue des Champions. Il a été mis sur la liste, mapou.
Non, mais sérieux?
Ben oui.
Ouais, ça m'a échappé,
c'était beau.
Ah ouais, il est sur la liste.
Ah ouais, un bon retour. Mais il a joué des matchs de préparation, mapou.
Ben écoute, il est sur la liste en tout cas.
Énormément de propositions. Pour incarner Diego Maradona à l'écran sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. Alors je vous en donne quelques, je vous en donne quelques-unes. Vincent Moscato serait parfait. Bon évidemment ça c'est une blague, mais c'est drôle quand même. Me dit-on Danny De Vito.
Non là non.
José Garcia. Bon voilà, bah, allons-y. Hein, soyons fous. Soyez dans un pastiche pour Maradona. Ça peut faire José Garcia en soirée avec la coke et tout. Ça peut marcher. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore? Le problème, c'est de l'incarner en footballeur. Il faudrait un Jérôme Rotten. Non, bah là, ça ne va pas le faire non plus. On me propose Samy Nasseri. Évidemment, c'est impossible. Donc, en gros, toutes les propositions sont pourries. Donc, je vous propose de continuer de proposer. On me dit Dave Patel, l'acteur de Slumdog Millionnaire. Bon, aussi.
Ouais. Ouais, je me suis
parlé de sa
tronche. Moi ouais, aussi, je vois un peu, mais bon.
Voilà. Et sinon, on me dit Ali Benarbia.
Ah, ça, c'est ouais. Peut-être le plus proche.
Hein. Ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Techniquement et physiquement.
Tout à fait.
Allez.
Tout à fait.
Dans quelques instants, on est de retour. On continue sur l'équipe de France. Et puis, on aura Simone Rovera. L'Italie a galéré pour battre la Finlande ce soir. Fred Hermel, l'Espagne a tranquillement battu les îles Féroé. Et puis, on parlera des autres résultats du jour avec quelques histoires étonnantes, notamment en Afrique aujourd'hui pour les qualifs de la Coupe du Monde. L'after est là jusqu'à minuit. Avec vous au 32-16, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là, jusqu'à minuit, nous sommes là avec vous, bien sûr. Le tennis rapidement, Eric, le score entre Nadal et Medvedev.
Après une heure, un peu plus d'1 heure de jeu, 1h17 exactement, 1-7-0 pour Rafael Nadal. Les deux joueurs sont allés se changer. Et donc on est toujours dans le premier jeu, à l'instant, premier jeu remporté par Rafael Nadal sur son service.
Il a encore effacé une balle de break, hein.
Absolument, oui.
Mais.
Ouais. Allez.
Medvedev résiste, mais en fait, il ne peut pas plus que ça, quoi.
OM Maniac qui lui dit attention les gars, vous parlez, on parle de d'Umtiti et l'anglais. Il dit Deschamps l'a déjà fait, Lacazette est titulaire devant Giroud à Arsenal.
J'ai failli le dire tout à l'heure, il a raison, il a raison, j'ai failli dire tout à l'heure.
Lacazette lui il est même pas là, il est à la maison. Donc,
ouais, non, mais j'ai failli dire tout à l'heure, oui, Lacazette nous le dirait.
Que Lacazette il est tricard, c'est pas la même chose.
Oh, mais pourquoi il est tricard? J'ai rien fait.
Ah, non, mais ça je te dis pas pourquoi il est tricard.
Il y a bien des périodes
où on est tous capables de voir qu'il était tricard. Oui. Et on peut tous trouver injuste sa non-présence, moi le premier. Mais c'est pas le même. Tu vois, là, ils sont tous les deux là, dans le groupe, comme petit île anglais.
Ouais. Enfin, Lacazette, il y a déjà été aussi.
Lacazette, lui, c'est carrément, en gros, aujourd'hui, tu n'existes plus. Pas exactement la même chose.
Ouais.
Il le considère pas, petit île, il est considéré. Sauf qu'il a perdu sa place.
Ça me surprendrait pas, moi, de le revoir, petit île, tu vois.
Sinon, si. Je sais pas si on a encore du temps pour parler de l'équipe de France.
Oui, qu'il y a Fabrice qui veut nous interpeller là.
C'était quand même. Bon, comment dire, étonné, agréablement étonné à la conférence de presse d'après-match d'entendre Didier Deschamps parler du nombre de passes.
Oui, un nombre record de passes, a-t-il dit.
D'habitude, il n'en a rien à cirer, puisque
peu importe
comment on joue, l'important c'est de gagner pour Didier Deschamps. Mais hier, avoir bien joué, c'est marrant, ça les mettait tous en joie.
Mais je ne sais pas s'il l'a dit pour l'équipe de France, même par rapport aux autres matchs de l'équipe de France, ou d'une manière générale. C'est rare que dans un match de foot, on fasse 900 passes.
Peu importe. L'important, c'est qu'il ait trouvé ça bien.
Bon après,
tout comme le style qui le mettait tout sourire. Donc finalement,
pendant 20
c'est
minutes,
agréable
ils ont joué
de
balle.
Alors que lui précise dans
passe de latéral.
Alors que lui précise que toutes les passes étaient intéressantes vers l'avant.
Non, c'est faux.
Bon, écoute, toujours est-il que le voir mettre en avant ce genre d'argument, le voir se réjouir du style de l'équipe, voir certains joueurs avoir été contents des mouvements, des montées de Lucas Hernandez, tout ça, je dis bah.
Ça t'a fait plaisir.
Donc c'est bien quand on joue bien alors. On a le droit de réclamer du beau jeu. Au-delà de la victoire, bah tant mieux, on est content, c'est bien. Donc c'est bien la preuve, et c'est ce que je dis toujours, et c'est mon grand combat, c'est que évidemment, tu gagnes comme t'as envie de gagner. Sauf que quand tu joues bien, même ceux qui ont l'habitude de mal jouer, c'est la première chose qu'ils vont mettre en avant, c'est ça. Ils vont quand même être contents de le dire.
Bah surtout.
Donc c'est bien la preuve que c'est cette recherche-là.
Ah bah c'est toujours plus plaisant. Ça c'est bien
la preuve que c'est. Il vaut mieux tendre vers ça tant qu'à faire. Vaut mieux bosser pour ça.
On va pas recommencer le débat, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Daniel, mais parfois. Pas cet exemple-là, mais parfois tu n'as pas les moyens de faire ça.
Oui.
C'est là où nous on diverge un peu.
Oui. Mais je ne crois pas trop non plus ça. C'est juste que tu as la flemme de d'essayer de. Parce que c'est très compliqué à mettre en place.
J'aimerais qu'on accueille Fabrice qui veut interpeller l'after ce soir. Fabrice, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Pierrot, bonsoir Daniel.
Salut Fabrice, on t'écoute.
Ça va, déjà je fais une petite aparté parce que j'étais chez ma mère. Avant-hier, et j'ai retrouvé des photos de Pierre Ducrot et moi au camp des loges. Ça m'a rappelé de sacrés souvenirs.
Donc ça fait 20 ans.
Au camp des loges, traverser la forêt, etc. C'était la petite aparté.
Ah bon, ça marche, c'est Fabrice et Abriel.
Comment
Non, ça va être un supporter.
Je
pensais que t'étais un mec qui était au centre de formation avec toi.
Tout le monde traversait la forêt avant que ce soit les pensionnaires du centre, puisque le centre était en ville, ou alors les supporters qui arrivaient souvent en RER de Paris ou d'ailleurs, et qui traversaient la forêt. Voilà. Et parfois, à l'époque, on ramenait les supporters à la gare de RER en voiture.
Ouais, ce qui serait inconcevable. Nicolas Nelka.
Ouais, tout. On était assez nombreux à le faire. Régulièrement. Ouais.
Parce que c'était sympa, ça.
Ouais, puis c'était une galère. Si vous connaissez un peu, il y avait pas des bus tout le temps. Il y avait 2 km entre la gare RER de Saint-Germain et le camp des loges. Deux, je sais pourquoi. Parce que nous, quand on partait courir les footings dans la forêt, on faisait la ligne droite et je crois qu'elle faisait 1,7 km. Donc.
Ouais, c'était très long.
Ouais, c'était long, voilà. Bon, bref.
Donc, Fabrice.
Eh ben, ça nous rajeunit pas. Ouais, vas-y, Fabrice.
Ouais. Je me permets de t'interpeller, Daniel. À juste titre, tu tires souvent un boulet rouge sur le centre de formation du PSG. Mais hier, en fait, tu vois, il y avait 5 joueurs sur la feuille de match qui sont formés au Paris Saint-Germain. T'as Mike Maignan, t'as Ikoné, t'as Kingsley Coman, t'as Areola, t'as Guendouzi. Bon, après, Mbappé, Lucas Digne et Matuidi. Bon, même si Mbappé n'était pas sur la feuille du match hier, et Mbappé... Matuidi, bon, c'est des joueurs originaires du club.
Matuidi n'a pas été formé au PSG.
Non, ils sont passés. Ils sont passés par PSG.
Matuidi n'a pas été formé au PSG.
Formé à 3.
Bref, et tu tires souvent un boulet rouge à juste titre sur le centre de formation du PSG. Mais bon, or hier, il y a eu sur la feuille de match et tu vois hier, il y a Jonathan Ikoné qui a marqué un but, t'as Kingsley Coman qui a marqué un doublé et ils ont été vendus injustement, ou après, ça dépend de la politique sportive où on la place, à l'étranger. Et c'est des joueurs qui n'ont pas eu leur chance. Et je pense qu'ils avaient la qualité pour jouer au Paris Saint-Germain, sous l'ère Ancelotti ou d'autres ères. Et malheureusement, je trouve qu'on n'aura pas donné leur chance, quoi.
Donc en gros, pour toi, c'est la preuve que la formation parisienne n'est pas si mauvaise que ça, quoi.
Bah tu vois, t'as un joueur comme Mike Maignan qui explose maintenant avec le LOSC. On lui a jamais donné sa chance. Après, je sais pas ce qui s'est passé entre Mike Maignan et Areola parce qu'ils sont plus ou moins de la même génération et je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être Pierrot, il a des infos par rapport à ça. Mais
Je pense que c'est pas passé grand chose parce qu'Areola est parti très longtemps après 3 années de suite, si je me trompe pas. Ils se sont très peu côtoyés, je pense, hein, moi, au PSG. Donc je crois qu'Alphonse est revenu, Maignan n'était plus là.
Dit Fabrice là sur la présence des joueurs formés au PSG.
La formation du PSG n'a jamais été mauvaise. De toute manière, ça a toujours alimenté beaucoup de clubs en France. Énormément.
La formation du PSG pour très bon de Fabrice.
Mais c'est pas très grave. J'allais toujours dire que le problème au PSG, et c'est encore plus vrai maintenant, c'est que ça alimente beaucoup l'extérieur. Que les meilleurs partent très souvent maintenant à l'étranger parce qu'il y a de gros moyens à l'étranger de les attirer aussi. Et que on est
pas le niveau pour jouer en équipe première.
Et voilà, exactement. Mais qu'il faudrait peut-être, et là je rejoins un peu Fabrice,
au moment où ils sont sollicités,
être patient avec eux, c'est-à-dire les solliciter un petit peu ou en tout cas leur donner un petit peu à manger avec l'équipe première pour pouvoir les faire rester tout en étant patient parce qu'ils sont pas effectivement tout de suite au niveau à 17 ou 18 ans. Mais c'est compliqué. Comment tu fais? On serait les premiers à critiquer si on avait un jeune qui était pas au niveau, qui commencerait à jouer au PSG, etc. C'est pas si facile comme débat.
Daniel.
Il n'y a que toi, Pierrot, qui a joué avec Leonardo, je crois.
Ouais. Après, moi, c'était pas la même époque. Soyons honnêtes. Il n'y avait pas le même niveau. Aujourd'hui, moi, avec mes qualités d'avant, qui étaient les miennes, j'étais pas mauvais techniquement, mais j'étais surtout un combattant. Je suis pas sûr que j'aurais réussi à m'imposer aujourd'hui, forcément.
Est-ce que tu sais combien de joueurs formés au PSG ont joué au très haut niveau en équipe de France?
pas te dire comme ça, je peux pas te dire. Il y a Nicolas Anelka, il y en a quelques-uns, mais
si tu formé au PSG, si tu considères que Nicolas Anelka a joué au très haut niveau en équipe de France, on peut dire oui parce qu'il est dans le groupe de l'Euro 2000.
Il a gagné l'Euro 2000
qui fait fantastique.
On va dire sinon tu t'en mets plus quoi.
Il a pas plus de 50 sélections mais
bon, okay, oui, mais ça il a jamais été réellement titulaire. Tu appelles toi le haut niveau parce que souvent en fait la problématique de compréhension.
Non mais bornons-nous à ceux qui ont été en équipe de France.
C'est où tu places la barre. Attends. En fait justement parce que ma réponse à Fabrice, il s'appelle, c'est ça ?
Oui.
En fait, elle est là. Donc il y a Anelka. Si on considère que oui, hein, il n'a fait pas non plus partie des gros cadors de l'histoire des Bleus. Et l'autre, c'est Luis Fernandez. Donc, c'est un peu pauvre au final. Donc, en fait, la question.
Alain Roche, il est formé à Bordeaux.
Donc, après, la question n'est pas tant de savoir. Et à chaque fois qu'on parle de la formation du PSG.
Moi, je la connais ta réponse, Daniel. Je la connais ta réponse.
Bah, je vais quand même te la redonner alors.
En fait,
tu peux pas la connaître, sinon tu aurais pas dit ce que tu as dit avant, parce que c'est la preuve que tu n'as pas compris en fait.
Vas-y, je t'écoute.
La question est qu'est-ce que tu veux. C'est pas la qualité de la formation d'ensemble du PSG, où effectivement, en plus ces dernières années, elle a même été souvent sous-cotée par rapport à la formation lyonnaise par exemple. Où on a beaucoup dit les Lyonnais, alors que si tu fais le compte un peu partout dans les clubs en Europe, tu dois avoir autant de Parisiens que de Lyonnais, si ce n'est plus de Parisiens.
Parce qu'on voyait des jeunes Lyonnais jouer à Lyon.
Et en plus, au plus haut niveau, sauf qu'à Lyon, ils jouaient, et en plus, ils étaient bons, notamment le fameux trio qui a permis à Lyon de surnager entre 2012 et il y a encore 2 ans. Le problème du PSG, enfin, c'est pas un problème, c'est ce qu'il est devenu, le PSG. Il faut que le joueur qui sorte du centre de formation, ce soit pas un mec qui puisse jouer au Celtic ou dans je ne sais quel club.
Dans un club de seconde zone.
Il faut qu'il joue au PSG dans les exigences du moment et qu'il n'ait pas recruté des mecs à ce poste-là qui soient
un frein pour sa progression.
Aujourd'hui, tu vas me répondre, la seule réponse qui serait valable, c'est Kingsley Coman.
Et encore,
il est parti jeune. Il a mis du temps, il est allé dans des clubs où il a été remplaçant, où il s'est pas imposé, à la Juve, où il faisait des rentrées souvent pas trop mauvaises. Hein. Après, il va au Bayern, où il est dans l'ombre de, je sais pas si on considère qu'il est plutôt à droite ou à gauche, mais en tout cas, Ribéry-Robben, qui était les...
Ouais, mais là le problème, c'est plus le PSG, Daniel. C'est ce qui est capable d'accepter Kingsley Coman à la Juve ou au Bayern,
voilà,
et qu'il n'aurait jamais accepté, même l'espace de 6 mois au PSG.
Exactement, et dans de nombreux cas, et là je te parle d'un l'un des meilleurs, hein, qui a été titulaire hier soir et qui joue au Bayern. Pour le reste, il faut que tu t'intéresses au fait de savoir si les mecs ont tous voulu rester. Qu'est-ce qu'ils ont réclamé à la signature? Comment était leur entourage? Comment il fallait les gérer? Est-ce qu'ils ont menacé immédiatement de partir? Et là, tu vas découvrir des choses qui sont un peu étonnantes. Tu vois? Donc, il y a non seulement, premier élément, est-ce que vraiment dans un effectif où tu as quand même des mecs, peu importe, on va me dire, ah, mais en Ligue des Champions, attends, à chaque poste au PSG, tu as quand même des mecs, je suis pas sûr que dans tous les mecs qui sont sortis depuis 10 ans du centre de formation, tu as des mecs meilleurs que ceux qui jouent sur les 5 dernières années au PSG. Regarde même un Rabiot. Comment ça s'est passé? Donc c'est compliqué. Pierre, il le sait ce truc-là. Le truc de la formation au PSG, en plus il connaît les jeunes au club et tout, c'est un sujet épineux. Alors, de là à aller vers la solution radicale qui a été on coupe complètement, on les vire tous, on les vend. Franchement, je sais pas s'il fallait absolument en arriver à ça. Ça a fait rentrer beaucoup de sous dans les caisses. Est-ce que les mecs là, que tu m'as cité... Pour Mike Maignan, j'ai un petit doute. Parce que moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce gardien.
Il est costaud.
Je le dis depuis longtemps, d'ailleurs.
Oui, mais il peut y avoir des erreurs du club.
Mais non, c'est
peut-être
pas une erreur.
Il aurait pu faire un Choupo-Moting, par exemple, tu vois.
Non, mais Mike Maignan, c'est encore pire, parce qu'à ce poste-là, est-ce que Mike Maignan, il faudrait lui poser la question, et je pense qu'il nous répondrait honnêtement, est-ce qu'il avait envie de rester 3 ans numéro 2, par exemple?
Au départ, il n'est pas facile comme mec.
Ouais, non, après, mais c'est ça. Il voulait jouer.
Il était dans un club où il est dans l'ombre. Et puis d'un coup, là, ça y est, moi, Maignan, ans, il y a deux ans, j'ai dit, ah, c'est un bon gardien, on rigolait. L'année dernière, ouais, pour moi, il pourrait même être en équipe de France. Juste je disais, on continuait de rigoler un peu.
Mais parce
et
qu'il a joué,
tout le monde dit, il est bon.
Mais parce qu'il a joué, il a progressé.
Voilà,
est-ce qu'il aurait joué au PSG avec des gardiens devant lui?
Je reviens sur Coman de Zoom parce que Willy Sagnol, il était hier soir dans l'after. Et non, c'est ce matin que j'ai entendu dans les grandes gueules. Et il connaît bien Coman, puisqu'il a été adjoint avec Ancelotti, puis même entraîneur éphémère du Bayern et tout. Et lui, il disait, le problème de Coman, c'est que c'est un mec assez introverti et qu'il n'allait pas au fight pour s'imposer. Mmh. Et il dit, en fait, Coman, pour que ça marche, il faut lui dire,
vrai.
Ok, maintenant c'est toi le titulaire et tu peux y aller.
Bah, il a attendu son tour, hein, d'ailleurs, au Bayern.
En fait, il dit, c'est quand tu es au Bayern. Ça fonctionne pas comme ça.
Il faut
que tu ailles te battre, sinon personne va te la donner la place, quoi.
Ouais, bah oui. Mais au final, il a attendu son tour. Et après, en équipe de France, quand c'est au complet, je sais pas s'il est utilaire forcément.
Ah non, je crois
pas. Fabrice, merci en tout cas d'avoir provoqué le débat.
Si Mbappé revient, il va laisser
salut
sa
Fabrice,
place.
Salut Fabrice, à bientôt.
On a vu encore hier soir que le meilleur, c'est Griezmann. Quoi qu'il en soit, le vrai patron de cette équipe technique dans tout.
Ah oui, il a fait un bon match.
C'est Griezmann, c'est lui le meilleur de l'équipe. Quoi qu'on en dise, c'est toujours lui.
Dans quelques instants, l'Italie et l'Espagne au programme, plus le reste de l'actu du jour, bien sûr, c'est l'after qui revient tout de suite. Je précise qu'au tennis, il y a toujours un 7-0 pour Nadal et 2-1 pour Nadal dans le deuxième set au rythme où ça va. Ça va se terminer chez Jean-Jacques Bourdin demain matin. À tout de suite.
RMC L'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Pierre Ducroix, avec Daniel Riolo. Le tennis toujours en cours. Eric Seul nous appelle dès que le score évolue. Toujours 2-1 pour Nadal dans le deuxième set. Et Fred Hermel et Simone Rovera sont là. Fredo, bonsoir.
Hola chicos.
Simone, bonsoir.
Salut les amis.
Simone.
Simone. Il s'est pas encore appuyé le bouton depuis chez lui.
Et puis à chaque fois, il nous dit bah quoi, j'étais là.
C'est normal. Moi, vous savez, moi, il y a 18 ans, quand j'ai commencé de correspondant à Madrid, au début, j'avais du mal avec le bouton aussi. Hein.
Ouais, ça n'est qu'un index qui doit s'actionner.
Simone, bonsoir.
Ciao, bonsoir.
Salut Simone. Tiens, les gars, juste un petit test, parce que maintenant, tu sais, on doute un peu de tout en France. Je te fais écouter un truc, Fred, écoute ça. C'est bien l'hymne espagnol, Fred. Hein.
Oui, je te confirme, la marche royale, qui n'a pas de, parole d'ailleurs.
Très bien. Contrairement enfin,
qui en avait dans des temps obscurs et on les a un peu éliminés, si vous voyez ce que je veux dire.
On voit bien.
Tadam, tadam. Alors en fait, en Espagne, on fait tin 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 tin. Voilà.
On fait des bruits, quoi.
Simone, écoute ça, s'il te plaît. C'est bien l'hymne italien, Simone.
Italia, c'est d'est. Ah oui, c'est ça.
Bon, très bien.
Il est très beau, l'hymne italien, quand même.
Ouais, 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 je suis d'accord.
L'hymne espagnol n'est pas génial. Hein,
non, l'hymne italien est très beau, c'est vrai.
Mais le jambon est meilleur qu'en Italie.
Bon. Bon, voilà. Donc, pour les hymnes, pour l'instant, l'after fait un sans faute.
Hein. Ouais, ouf, hein.
On est bon. Oh notre réalisateur est meilleur que celui du Stade de France.
Ouais, exactement. Bon, démarrons par l'Italie parce que c'était le match le plus tendu. Finlande-Italie tout à l'heure, Simone. Alors, j'ai une petite scène très très drôle ce matin dans l'émission des Paris où toute l'équipe, là, Payet, Drouet, tout ça, ils disent « Oh, de toute façon, l'Italie, c'est sûr, ils gagnent et tout, avec 1000 arguments, ça fait depuis 1912, Simone était là, que la Finlande n'a pas gagné. » Et là, Denis Charvet la regarde et il a dit « Ah bon ?» Je joue la Finlande.
Et donc, dans ce cas-là, tu sais qu'il faut miser à l'envers de ce que dit Denis.
Donc, Denis, voilà. Fidèle à lui-même.
Quel génie. Bon, Simone, ça n'a pas été si facile que ça quand même. Hein.
Non, ça n'a pas été facile. Après, c'est la Finlande est deuxième dans les groupes. Elle avait fait 4 victoires consécutives et avait gagné sa poule de Nations League. C'est pas pour rien. C'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe intéressante. Bon, c'est vrai que l'Italie se trouve dans un groupe plutôt simple, comme souvent arrive dans les phases de qualification à l'Euro. Mais l'Italie a eu de la difficulté surtout parce que, à un certain moment, après avoir dominé les matchs, elle a fait cadeau d'une pénalty. L'Italie fini avec 25 tirs dans 9 cadrés. La Finlande, un seul tir cadré. Donc, c'est les pénaltys.
Encore beaucoup de jeunes.
Hein. L'Italie, alors imaginez qu'a changé 5 joueurs Mancini qui est en train de chercher encore un peu son Italie. C'est vrai qu'il y a des blessés. C'est vrai qu'il a envie de voir des gens nouveaux. On peut comme Pellegrini qui petit à petit s'installe, comme Izzo qui peut-être c'est pas très connu mais joue très bien dans le Torino, Sensi qui pour moi va devenir incontournable dans cette sélection, même si c'est lui qui est fautif sur les pénaltys. Je l'ai trouvé très très bon et j'ai hâte de le voir avec Jorginho Verratti dans ce milieu très très technique. Donc oui, l'Italie avec beaucoup de jeunes. Mancini mise encore sur Chiesa qui n'arrive pas à trouver les buts, n'a jamais marqué en sélection. Mais ce soir, c'est vraiment l'événement incroyable parce que Ciro Immobile a marqué un but. Vous direz, Ciro Immobile, oui, bah, meilleur buteur des Serie A, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ça faisait 2 ans qu'il n'avait plus marqué un but en sélection. Donc, imaginez l'envie qu'il avait de marquer, l'attente qu'il y a, les polémiques sur lui. Est-ce que c'est un vrai neuf pour la sélection? Est-ce que c'est un joueur qui est très bon avec la Lazio et très nul avec l'Italie? Bon, quand même, ce soir, il marque le but de 1-0 et après, il y a ces deux pénaltys, celui pour la Finlande et celui pour l'Italie qui font en sorte que le résultat est toujours positif pour les Italiens.
Et sixième victoire, là, ils sont qualifiés, là.
6 victoires sur 6 avec une victoire les prochains matchs face à la Grèce.
On a dépassé la moitié des éliminatoires, il faut le préciser quand même, il reste 4 matchs. Hein.
Avec une victoire face à la Grèce, l'Italie est qualifiée et la Grèce.
Il reste 4 matchs, ils vont les jouer quand les 4 matchs?
Un là, dans les jours qui viennent,
et après
en octobre.
Il n'y en a plus que 2 alors. Donc 3.
Il y en a en novembre aussi.
Il y en a un en novembre.
En novembre, il y a des matchs aussi.
D'octobre, de novembre.
Il n'y a pas de trêve internationale encore.
Si, il y a une semaine en octobre, une semaine début novembre.
Exactement.
Ah oui, Pierre. Oui. Je sais que la trêve, c'est toujours dur à l'accepter, en septembre surtout, quand tout vient de démarrer. Et après, soudain arrive la trêve et tu te dis non, mais déjà, il y en a encore 2. Ouais.
Ouais, je suis surpris aussi, moi.
En tout cas, l'Italie donc, va y être, quoi, donc, c'est à peu près sûr.
Avec une victoire face à la Grèce, l'Italie va être qualifiée officiellement pour l'Euro.
Celui-là, la Finlande est aussi bien partie pour se qualifier malgré sa défaite de ce soir. Hein. Et la Finlande n'est en général jamais dans les phases finales. Donc ce serait une petite première.
Ce serait la première fois. Mais les grosses déceptions de cette poule, c'est la
Bosnie.
C'est la Bosnie. La Bosnie qui aujourd'hui a encore perdu 4-2
en Arménie.
Et on aurait cru que c'était d'ailleurs, la vraie adversaire de l'Italie. D'ailleurs,
qui était sélectionneur de la Bosnie, a démissionné après le match.
Ah, bien sûr. C'est bon, il aurait été viré, je crois.
Et il a dit, c'est clair, on ne sera pas qualifié, alors qu'en fait, mathématiquement, ils peuvent encore y être. Hein.
Bon. Et oui, ça suffit de battre la Finlande la prochaine semaine et tout est plus simple. Bon, la prochaine semaine, en octobre.
Exactement. Un truc à rajouter sur l'Italie ou t'as fait le tour?
Non, je fais le tour. Je répète, 5 changements de Mancini, donc beaucoup de visages nouveaux, mais tout va bien. Tout va bien pour l'Italie.
Fredo!
Oui,
nous aussi. Espagne, Féroé, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous raconter?
C'est 4-0. Alors, on va
Gilles Ferroé, c'est l'équipe contre qui Jérôme Rotel a marqué, hein, donc fais attention.
Ah oui, d'accord, oui. Non, c'est grosse.
C'est redoutable.
C'est une équipe de Berger,
les Moubons, tout ça, c'est fini, tout ça.
Bon, c'était l'équipe B, il y avait 9 changements par rapport à la.
L'équipe B des Ferroé de
non, des Espagnols.
Ah.
9 changements par rapport à la victoire de jeudi en Roumanie. Les Espagnols, c'est comme les Italiens, c'est 6 matchs, 6 victoires. Ils ont, en plus, ils profitent du match nul entre la Suède et la Norvège. Donc voilà, enfin, il y a un boulevard pour que les Espagnols soient qualifiés très vite. Que retenir, que Ramos est devenu, a rejoint Iker Casillas comme avec 167. Matchs internationaux, Ramos au prochain match, il a rejoint Iker Casillas, mais au prochain match il sera le plus capé de l'histoire de la sélection espagnole. On va peut-être dire un mot quand même sur Alcacer, parce que je vous ai dit quand j'étais d'ailleurs sur le plateau l'autre jour que en Espagne il y a toujours ce petit problème d'efficacité devant et qu'entre Costa
et toujours ce problème de numéro 9 qui devient
le killer. Et en fait, il y en a un qui est en train de se détacher. Il a marqué l'autre jour en Roumanie. Il a marqué un doublé. Il est rentré en toute fin de match. Il a marqué 2 buts parce que finalement le Real.
Ah ça, on n'y peut rien. Les lapsus c'est.
C'est normal parce que tu sais, il y a plus de matchs du Real.
C'est même plus révélateur ça là.
C'est révélateur. C'est complètement révélateur d'un mec qui vit à Madrid. Paco Alcacer, ex du Barça.
C'est révélateur.
Maintenant
d'un
en Allemagne.
Transit.
Non, mais le truc, en fait, il met 2 buts alors que l'Espagne était à 2-0, que c'était un peu poussif, etc. Et c'est vraiment 2 buts de vrais killers. Donc il y en a un qui se détache un tout petit peu parmi les Morata, les Diego Costa, les Rodrigo Moreno de Valence qui manque beaucoup.
Frappe, quand même.
On a l'impression quand même que c'est Paco Alcacer qui a quand même eu l'un des gros gros échecs du Barça de ces dernières années, qui en Allemagne maintenant s'éclate, eh ben, on a l'impression que c'est plutôt lui qui va devenir le buteur officiel de cette sélection. Et j'aimerais quand même qu'on dise un petit mot sur le sélectionneur, parce que personne ne connaît. Il est encore là, Simonet, ou pas? Il est encore là, Simonet, ou pas?
Ah ouais,
oui, je suis là.
Ouais, est-ce que tu te souviens de l'adjoint de Luis Enrique à la Roma?
Non.
Non, non, mais c'est normal. Bah, c'est personne ne le connaissait.
Lui,
c'est Robert Moreno. En fait, Robert Moreno, c'est quelqu'un qui est totalement inconnu. Ce sont les dramatiques circonstances, bon, du décès de la fille de Luis Enrique. Lui, qui l'a propulsé à la tête de la sélection, puisqu'il a été l'adjoint, toujours adjoint. C'est un type qui, à l'âge de 14 ans, il est né à Barcelone, a commencé à entraîner des petites équipes de Catalogne, etc. Il a toujours été adjoint de Luis Enrique, aussi adjoint d'Unsue à Vigo. Voilà, c'était, mais personne ne le connaissait. Et malheureusement, quand Luis Enrique avait dû quitter la sélection au mois de mars pour aller au chevet de sa fille, c'est lui qui avait fait la conférence de presse, c'est lui qui avait dirigé l'équipe, et personne ne le connaissait. Et c'est vrai qu'il y avait quelques doutes sur sa légitimité par rapport aux joueurs. Ben, on se rend compte d'une chose, les amis, c'est que
les joueurs l'aiment bien, ils veulent rester avec lui.
Ben, c'est ça. Et ça compte.
Ben oui.
C'est, ah
ben oui.
Tu vois, les mecs se disent, voilà, ben non, quand t'as Jordi Alba qui dit il a toute la personnalité nécessaire pour être le sélectionneur, c'est vrai que tactiquement, il est plutôt bon. Il a même écrit un bouquin sur le 4-4-2 il y a quelques années. Est-ce qu'on a besoin d'être très connu pour diriger une grande nation espagnole, ou est-ce qu'on a besoin d'être soutenu par des joueurs qui sont très bons? On verra comment ça va se passer.
Après,
dans la prochaine semaine.
Faut toujours faire attention au soutien des joueurs.
Ouais, parce
qu'ils peuvent soutenir
oui,
un mec, parce qu'il l'aime bien et tout, mais parce que aussi il laisse dans un certain confort et
voilà.
Et voilà. Mais après, s'il est bon.
Ouais, on va.
Est-ce qu'en Espagne, vous surnommez Bob ou Bobby? Non, pas du tout. Hein. C'est
non,
pas Bobby Moreno.
Non, c'est Robert. Et en fait, c'est en catalan, c'est Robert. Parce qu'en espagnol, c'est Roberto, et lui, c'est Robert. Donc, c'est un jeune, il a 42 ans. C'est vrai qu'il faut reconnaître que le président de la fédération.
Son seul défaut est d'être catalan, si j'ai bien compris.
Oh, c'est magnifique d'être catalan.
Ah, c'est très beau d'être catalan. Je dis ça pour toi. Hein.
Non. Ce qui est. Enfin, bref, on va pas faire de politique, mais ce que j'aime moins. En fait, moi, j'adore les Catalans, j'adore aller en Catalogne. Simplement, j'aime pas ceux qui veulent détruire un pays. Mais ça vaut pareil pour les Français. Hein.
On va conclure là-dessus, les gars. J'ai deux, trois petites infos à vous faire partager juste avant de vous quitter. Il y a du monde qui veut le mondial 2030. Alors, vous savez que la Chine pourrait se positionner. Il y a un ticket avec l'Argentine et l'Uruguay comme en 1930. Il y a l'Espagne et le Portugal qui étudient une candidature commune. Et aujourd'hui.
Et depuis longtemps.
En tout cas, c'est à la mode, les candidatures communes.
Oui,
c'est ça qui marche maintenant.
La nouvelle candidature commune, Équateur, Colombie, Pérou. Parce qu'ils disent, de toute façon, c'est pour l'Amérique du Sud. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit les autres, là, l'Argentine et l'Uruguay. Donc, ça peut être nous. Donc, les
surtout
pays.
Surtout maintenant, ils peuvent s'y mettre à plusieurs. Il y a tellement de matchs.
Bah, ouais,
ils peuvent tous.
Mais l'altitude.
Mais 2030, c'est pas États-Unis, ça va pas être États-Unis.
Bah écoute, non, c'est pas encore déterminé 2030. Et puis alors une petite histoire africaine pour conclure. Georges Weah est en colère. Il y avait les barrages retour aujourd'hui de qualif au Qatar. Je lance premier tour. Donc l'Éthiopie par exemple s'est qualifiée, la Tanzanie, la Guinée équatoriale. Et il y avait un derby entre Sierra Leone et Liberia, deux pays voisins. Mm-hmm. Le Liberia avait gagné 3-1 à l'aller. Il y avait le retour cet après-midi. Et en fait, les Libériens ont été attaqués par des supporters de la Sierra Leone avec pierre, bouteille, couteau. Ils se sentaient en totale insécurité en Sierra Leone. Weah est intervenu, vous regardez sur ses réseaux sociaux, il raconte, il dit, moi quand j'étais joueur, ça nous est arrivé au Congo, on s'est entraîné dans le jardin de l'hôtel, on a gagné quand même parce qu'on était voilà, les Libériens, on est fort et tout. Et moralité, les Libériens, ils se sont qualifiés, ils ont perdu 1-0, mais ils se sont qualifiés quand même. Donc Georges Weah est content ce soir.
Quand même triste de voir jouer dans ces conditions quand même.
Exactement.
Même si ça montre côté costaud.
Sierra Leone, comme joueur, à part Mohamed Kallon, on connaît personne.
Sierra Leone.
C'est vraiment le joueur qu'on connaissait.
Sierra Leone,
tu te souviens de Mohamed Kallon?
Ouais, ouais. Mais depuis lui.
Bah si, il y avait l'athlète qui était naturalisée française, Eunice Barber. Elle était Sierra Leoneaise.
Ouais, mais elle a moins joué au foot.
Oui, mais là, au foot, elle n'était pas dans l'équipe en fait.
Non.
Elle n'avait pas été sélectionnée.
Point score, Eric Salio, à la finale de l'US Open.
Ouais, c'est en train de tourner court, oui et non, mais Nadal a pris un net ascendant. 7-5, 4-2 pour l'Espagnol dans cette finale.
Ça va faire 2-7-0, c'est bouclé l'affaire. Hein.
Ouais, je pense, ouais. Mais il a tout donné pendant
19 19 ouais, monsieur 19.
Ouais. Tiens, le 20e, où et quand?
Tu vas pouvoir continuer le match dans le RMC Poker Show, mon petit Eric. Eh oui.
C'est du direct-direct
ou bien sûr, le RMC Poker Show, c'est toujours en direct, c'est tout de suite, juste après les infos.
Ouais, tu vas nous annoncer la victoire de Nadal même.
Et tiens, demain,
aller sur le cours, moi.
L'after sera là à 21h, bien sûr. Et n'oubliez pas, demain dans la journée, mise en ligne de le nouveau podcast Saint-Etienne-Lyon-Paris-Marseille. Les podcasts de la semaine, ils seront en ligne dès demain après-midi. Donc ne ratez pas ça, évidemment, sur toutes les plateformes et les applis RMC, RMC Sport. Pierre, merci beaucoup.
Merci.
Tout de suite, le RMC Poker Show, juste après les infos.
Exactement, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.